Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons notre série concernant quelques réflexions concernant la résurrection. Quelques réflexions qui concernent la résurrection. Nous arrivons à l'étude numéro 4. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 20, verset 11 jusqu'au verset 16, Jésus appelle Marie de Magdala. Il l'appelle par son nom. Saint Jean, chapitre 20, verset 11 à 16. L'apôtre Jean décrit de façon magistrale comment l'affliction de Marie de Magdala s'est transformée en joie. Alors que les deux disciples retournent chez eux, elle reste en pleurs près du sépulcre pour veiller le corps de son Seigneur bien-aimé. Tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau et elle voit deux anges en vêtements blancs assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Saint Jean, chapitre 20, versets 11 à 13. Marie entreprend d'entrer dans le sépulcre, mais elle est si prisonnière de son affliction que même les anges ne peuvent l'en délivrer. Aux anges qui lui demandent avec compassion la raison de sa tristesse, elle ne peut que répéter ce qu'elle a déjà dit aux disciples, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur. » Elle parle de Jésus comme s'il lui appartenait, et puisqu'il n'est plus vivant, elle voudrait au moins qu'on lui laisse le cadavre. Et c'est cette affliction vécue jusqu'au bout qui l'a conduit au Seigneur. Quand Marie explique aux anges la raison de sa peine, elle se retourne, comme le dit le texte grec, et la rencontre avec les anges lui fait faire, on peut bien dire, un tour sur elle-même, on peut dire un retournement intérieur, parce qu'elle accepte ce retournement, elle accepte cette métamorphose. Alors là, elle voit Jésus se tenir devant elle, sans pourtant le reconnaître immédiatement. Jésus lui demande avec autant de compassion que les anges, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Saint Jean, chapitre 20, verset 15. Le prenant pour l'instant pour le jardinier, elle lui fait part de sa douleur. Elle aimerait voir le cadavre de Jésus. Elle aimerait le toucher et le pleurer. « Seigneur, si c'est toi qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai, lui dit-elle. » Saint Jean, chapitre 20, verset 15. Obsédée par le cadavre de Jésus, elle en oublie le vivant, oui, le vivant qui se tient devant elle. Mais quand Jésus l'appelle par son nom, alors là, elle le reconnaît et lui répond « Rabouni », c'est-à-dire « mon maître ». le fait d'être appelé par son nom, crée entre eux, maintenant, une relation nouvelle. Jésus n'est plus pour Marie une sorte d'anonyme, mais il est mon maître. Il est celui à qui elle se sait liée par l'amour. Dans ces mots, Marie, mon maître, s'inscrit le mystère de la résurrection. Transformée, les yeux ouverts, Marie de Magdala reconnaît Jésus. Elle se sait totalement comprise et aimée. Par ces mots, Jésus l'a atteinte au plus profond d'elle-même. Émue, elle sait alors que l'amour est beaucoup plus fort que la mort, que le bien-aimé qui lui a redonné la vie ne peut être vaincu par la mort. Le Seigneur nomme le nom familier de la servante, et la servante connaît, elle connaît la voix familière du Seigneur. Elle a senti, je pense, ou plutôt j'affirme, elle a senti la douleur et la douceur habituelle dont Jésus avait coutume de l'appeler tout simplement Marie. Ô voix délectable, quelle caresse aux oreilles, quelle saveur d'amour. On ne pourrait le dire plus brièvement, plus vite. Je sais qui tu es, ce que tu veux, eh bien me voici, ne pleure plus, ne pleure pas, car me voici, moi qui t'a sauvé, qui a chassé tes mauvais esprits, moi que tu cherches maintenant. Aussitôt se changent les larmes. Oui, maintenant les larmes se changent en joie. Je ne crois pas en effet qu'elles se soient arrêtées tout de suite, ces larmes, mais celles qu'un cœur contrit exprimait d'abord en se tourmentant, oui, un cœur en joie les répandait ensuite en exultant. Chers amis à l'écoute, médite aujourd'hui cette scène merveilleuse et laisse-toi initier au mystère de l'amour. Imagine-toi que Jésus, qui t'a aimé au point de mourir pour toi sur la croix, imagine qu'il t'adresse la parole dans son amour ineffable, t'appelle par ton nom, te désigne personnellement, car tu comptes vraiment pour lui. Il t'aime sans réserve et sans condition. Cette méditation ôtera peut-être les doutes que tu as quant à ta valeur. Si tu te sais aimé complètement à l'image de Marie de Magdala, tu n'auras plus besoin de rechercher la reconnaissance d'autrui. L'amour inconditionnel de Jésus peut t'apporter la paix intérieure et étancher ta soif. Ensuite, Jésus lui dit « Ne me touche pas ». Saint Jean, chapitre 20, verset 17. Marie de Magdala touche Jésus, ou au moins, elle s'apprête à le faire. Les représentants artistiques de cette scène divergent entre eux. Parfois, Marie est agenouillée devant Jésus et lui tient les pieds embrassés. Et sur d'autres tableaux, elle touche son flanc et voudrait l'étreindre. En tout état de cause, elle veut reprendre avec Jésus la même relation que celle qu'elle avait avant sa mort. Elle aimerait toucher son maître bien-aimé. Elle aimerait sentir qu'elle est proche de lui. Cette proximité aimante la guérit. Elle voudrait voir son affliction métamorphosée. Elle voudrait voir cela en joie durable, et être consolée pour toujours. Pourtant, Jésus lui dit « Ne me touche pas ». Saint Jean, chapitre 20, verset 17. Qu'il soit ressuscité, cela ne veut pas dire que Jésus se trouve dans l'état où il était avant sa mort. Il est en chemin vers le Père et ne se laisse pas toucher. L'amour du ressuscité ne passe plus par le toucher, l'étreinte, mais par la prononciation simplement du nom, c'est-à-dire par la rencontre entre celui et qui a traversé l'horreur, celui qui a traversé l'horreur de la mort, et envers celle qui lui doit d'être ce qu'elle est aujourd'hui. La mort vaincue par Jésus, elle n'a plus prise sur leur amour. Je parle de l'amour agapé. La mort et la résurrection de Jésus ont appris à Marie de Magdala à se détacher de lui. Elles ont transformé son amour en la libérant de toute volonté de contact. L'apôtre Jean comprend la rédemption comme étant la capacité pour les hommes d'aimer. Leur détresse vient de ce qu'ils sont devenus étrangers à eux-mêmes. Et de ce fait, ils sont incapables d'amour. Celui qui n'est pas vraiment lui-même ne peut pas rencontrer les autres dans l'amour. Il se nourrit de l'amour des autres et n'existe que par cet amour. Mais la relation d'amour n'est pas réciproque. Celui qui est étranger à lui-même ne peut ni ressentir l'amour de Dieu, ni en éprouver pour lui. Tout se trouve donc en quelque sorte figé. Aucun échange n'est possible. La mort de Jésus sur la croix est, pour l'apôtre Jean, la marque suprême de son amour. La croix est l'initiation au secret de l'amour divin. L'amour que Jésus nous porte trouve son accomplissement dans sa résurrection. La mort de Jésus manifeste l'ardeur de son amour. Sa résurrection fait éclater la victoire de cet amour. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean décrit la rencontre de Jésus et de Marie de Magdala comme étant une histoire d'amour. L'expression « ne me touche pas » évoque la fiancée qui a enfin trouvé celui qu'elle aime. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 4 et 5, nous pouvons lire ceci: « Je l'ai saisi et ne le lâcherai point. Je ne le lâcherai point que je n'ai fait entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour avant l'heure de son bon plaisir. Voyez-vous, l'amour que le ressuscité nous témoigne et auquel il nous appelle n'a rien de l'amour érotique des amants du Cantique des Cantiques. Ça s'appelle un amour agapé. Il ne retient pas et ne se laisse pas retenir. L'amour érotique, c'est autre chose. L'amour érotique embrasse et étreint, mais l'amour du ressuscité rend libre. Cet amour submerge notre cœur quand Jésus s'adresse à nous par notre nom et quand il tourne son visage et son regard vers nous. Mais cet amour, nous ne pouvons le retenir, nous pouvons le garder pour nous. Il s'adresse à tous ceux qui savent l'accueillir. Donc c'est ce que Marie de Magdala a dû apprendre. La légende a brodé à partir du récit de l'apôtre Jean en faisant d'elle le symbole de l'amour. Elle est tellement habitée par l'amour de Dieu que son visage en est le pur reflet. Qui la rencontre est tout simplement fasciné par son amour. Or, la résurrection nous initie à l'amour divin. Et cet amour-là, à première vue, est débordant d'érotisme. Voyez-vous, c'est pas la même chose. Donc, cet amour à première vue débordant d'érotisme, comme nous le suggère Marie de Magdala, cet amour-là, donc, doit passer par la métamorphose de la mort pour se libérer de tout lien et de tout objet. Il est ainsi défini dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 6 et 7. Mais encore, je dois dire, pour pas que ce soit mal compris, parce que j'ai peut-être pas donné la bonne intonation, cet amour à première vue qui déborde d'érotisme, comme nous le suggère Marie de Magdala, cet amour-là doit donc passer par une sorte de métamorphose de la mort. Pourquoi ? Mais pour se libérer de tout lien et de tout objet. Il est aussi défini dans le Cantique des Cantiques, comme je viens de le dire, au chapitre 8. Car l'amour est fort comme la mort, l'amour passion, inflexible comme le Shéol. Ses traits sont des traits de feu, sont une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Qui offrirait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, ne recueillerait que mépris. Donc toi qui écoutes maintenant, comment assouvis-tu ta soif d'aimer et d'être aimé? Doutes-tu de l'amour que te donne ton ami, tes parents, ton conjoint? Tu as le droit de douter. Ne réprime pas ces doutes, car ils vont te conduire à l'amour qui émane du ressuscité. Tu ne peux jouir pleinement de l'amour humain que si tu le vis en relation avec l'amour absolu, l'amour infini de Jésus. Fêter la résurrection, c'est de croire en l'amour que la mort n'efface pas, n'effacera jamais. C'est ce savoir aimé par l'amour éternel de Dieu. Nous sommes reçus maintenant dans l'amour de Dieu, selon saint Jean, chapitre 20, verset 17. Marie de Magdala ne doit donc pas toucher Jésus parce qu'il n'est pas encore monté au ciel. Pour l'apôtre Jean, la résurrection est une montée vers le Père. L'incarnation était donc une descente vers les hommes. Sur la croix, Jésus est exalté par son Père. Il se révélera ensuite comme étant le crucifié, le ressuscité, le glorifié. Que signifie cette conception johannique de la résurrection? Est-ce une simple construction théologique ou est-ce un véritable chemin de vie? Pendant le temps pascal, la liturgie met en avant les paroles d'adieu tirées de l'évangile de Saint Jean chapitre 14. Jésus y répète qu'il va monter vers le Père pour nous préparer une place. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous le dis maintenant, avant que cela n'arrive, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez. Saint Jean, chapitre 14, versets 28 et 29. Jésus ressuscité va donc vers le Père, et cela devrait être la source de joie pour tous les disciples que nous sommes. Celui avec lequel ils ont vécu, celui qu'ils ont touché, il est maintenant dans la gloire du Père. Et en lui, nous avons maintenant un intercesseur auprès du Père. Vous avez bien entendu, nous avons maintenant quelqu'un qui intercède pour nous, pour toi qui écoutes, auprès du Père. Une part de nous est déjà auprès de lui. Nous sommes donc déjà élevés au ciel par le Christ et immergés dans l'amour divin. L'amour réciproque du Père et du Fils, amour que nous partageons, cela est un thème récurrent des paroles d'adieu. Jésus, dans la prière des grands prêtres, demande que l'amour avec lequel le Père l'a aimé soit aussi en nous et que Christ lui-même soit en nous par l'Esprit Saint. Saint Jean chapitre 17 verset 26. La résurrection selon l'apôtre Jean, cela signifie que nous sommes acceptés dans la gloire du Père et que nous sommes, par le Christ, montés au ciel, et que nous sommes inclus maintenant dans l'amour réciproque du Père et du Fils. La résurrection ne concerne pas seulement Jésus, mais aussi chacun de nous. Elle nous donne accès à nous, chrétiens, à une nouvelle façon d'être et de vivre. La vie, celle qui mérite de porter ce nom, n'est possible que lorsque l'homme est immergé dans l'amour de Dieu. Pour l'apôtre Jean, la vie en Dieu est l'autre nom de l'amour divin. Si nous pouvons nous aimer les uns les autres, mais cela c'est uniquement parce que l'amour de Dieu nous inonde, et seul l'amour rend la vie digne d'être vécue. Regarde-toi aimer les autres, et là, qu'éprouves-tu qu'est-ce que cet amour fait de toi? Imagine que cet amour ne soit pas seulement destiné à quelqu'un en particulier, mais qu'il est pour toi la voie d'accès à l'amour divin. Et c'est lui qui te conduit à Dieu et à partager l'amour réciproque entre Père et Fils. Sans doute, alors, comprendras-tu ce que nous dit l'apôtre Jean quand il dit « Dieu est amour » et « celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu » et Dieu demeure en lui. Premier épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 16. Donc, aimer, c'est s'ouvrir à Dieu et faire l'expérience d'une transformation de soi-même. C'est aussi accéder au mystère de notre propre vie. En Saint Jean, chapitre 20, verset 18, Marie de Magdala dit « J'ai vu le Seigneur ». Saint Jean, chapitre 20, verset 18. Jésus envoie donc Marie de Magdala transmettre aux disciples ce message. « Va trouver mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Saint Jean, chapitre 20, verset 17. Marie doit donc transmettre le mystère de la résurrection tel que le comprend l'apôtre Jean. C'est une femme qui devient l'annonçatrice du message de la résurrection. On relèvera ici le courage de l'apôtre Jean. D'ailleurs, l'Église primitive a été marquée par cette figure féminine. Qu'une femme soit l'annonciatrice de la résurrection est bien entendu plus que n'en peut accepter cette communauté d'hommes. Que ce soit en plus une pécheresse, eh bien cette femme dont Jésus, on se rappelle, a chassé les démons, cela est une provocation encore plus grande pour eux. L'Église primitive a donc vu en Marie de Magdala le symbole des nombreuses femmes qui ont participé activement à la propagation de la foi. Elle a reconnu en elle le mystère du message de Jésus. Il appelle les pécheurs à le suivre et à témoigner pour lui. Marie ne se contente donc pas d'annoncer ce que Jésus lui a demandé de rapporter, mais elle ajoute son propre témoignage. Elle dit « J'ai vu le Seigneur ». Saint Jean, chapitre 20, verset 18. Elle a non seulement entendu Jésus, mais elle l'a aussi vu et rencontré. Donc, dans cette rencontre, lui est apparu le mystère de sa propre vie. Elle raconte maintenant ce qu'elle a vécu de façon subjective. Elle nous indique la voie que nous devons emprunter à notre tour pour parler de la résurrection autour de nous. Il ne suffit pas de reprendre ce que d'autres ont déjà dit. Il nous faut partir de notre propre expérience. La théologie n'est pas un système abstrait, mais l'interprétation de l'expérience que chacun fait avec lui-même et avec Dieu. a bien regardé notre vie, nous pouvons, nous aussi, témoigner de notre rencontre avec le Seigneur. Il nous apparaît à chaque fois que nous voyons des pauvres, quand nous voyons des personnes dans la détresse, quand nous voyons des étrangers et quand nous voyons des malades. Il est dans celui dont la rencontre nous bouleverse. Il est aussi dans les événements de notre vie, dans ces heureux hasards qui arrangent tout, qui rendent réel l'invraisemblable. Je répète, ce sont des choses qui rendent réel l'invraisemblable que nous comprenons pas toujours. Donc il est partout où se manifeste la gloire de Dieu. Il est dans la beauté de la nature, dans la musique qui exprime l'inouï, dans la peinture qui rend présent l'invisible. Il est dans l'homme resplendissant de la lumière de Dieu. Il est dans la fleur qui irradie le mystère divin. C'est encore lui que nous rencontrons partout. Nous ne pouvons pas ne pas devenir les témoins de la résurrection comme Marie de Magdala. Notre vie, elle recèle aussi nombre d'expériences à propos desquelles nous pouvons dire « J'ai vu le Seigneur ». Cher ami, s'il te plaît, aie cette parole en tête aujourd'hui et dis-toi « J'ai vu le Seigneur ». Tu verras alors les hommes d'un regard tout neuf. Tu les verras ainsi que les événements et ils t'apparaîtront, ces événements, sous un autre angle. Peut-être reconnaîtras-tu alors que ta vie quotidienne n'est pas seulement faite d'obligations et de performances, d'efforts et de surmenages, je veux presque dire un burn-out. L'expérience de la résurrection est donc possible à tout moment. Elle est possible chaque jour, quelque chose de nouveau peut te survenir. Chaque jour, Dieu peut faire irruption dans ta vie. Quand cela se produit, eh bien, tout rentre dans l'ordre. Oui, la vie reprend donc le dessus sur la mort. Le jeudi de la troisième semaine de Pâques, on donne lecture de l'histoire de l'Éthiopien qui se fait baptiser. Cette histoire, elle est caractéristique de la façon dont saint Luc raconte la résurrection. Il veut nous montrer comment la résurrection peut se produire dans une rencontre entre hommes de différentes origines. On voit maintenant un ange du Seigneur qui apparaît à Philippe. Nombreux sont les anges de la résurrection dans les Actes des apôtres. Ils veulent prouver aux hommes que le Christ vit et qu'il est le véritable Messie. Il dit donc « Pars et va-t'en sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. » C'est ce que dit l'ange à Philippe, selon Actes des apôtres, chapitre 8, verset 26. Il chemine donc sur la route déserte sans savoir ce qui l'attend. L'ange du Seigneur lui ordonne de suivre un char sur lequel un Éthiopien haut fonctionnaire et eunuque, rentre chez lui. Philippe y courut et il entendit que l'eunuque disait et lisait surtout le prophète Ésaïe. Donc, l'eunuque était en train de lire le prophète Ésaïe. Alors Philippe lui demande, « Comprends-tu donc ce que tu lis ? Et comment le pourrais-je, dit-il, si personne ne me guide ?» Actes chapitre 8, verset 30. Alors Philippe s'assoit près de lui et lui explique le passage de l'Écriture sainte dans lequel Ésaïe parle du serviteur de Dieu qui est conduit à la boucherie tel un agneau. S'appuyant sur ce passage d'Ésaïe, Philippe annonce l'évangile de Jésus. Fasciné, le fonctionnaire fait arrêter le char au point d'eau le plus proche et il prie Philippe de le baptiser. À peine le baptême terminé, voilà que Philippe est enlevé par l'Esprit du Seigneur, si bien que le fonctionnaire ne le voit plus. Saint Luc rapporte cet événement sur le même mode que l'épisode des disciples d'Emmaüs. Cette fois pourtant, le ressuscité n'apparaît pas lui-même, mais c'est un étranger qui était venu en pèlerinage à Jérusalem que Philippe rencontre comme messager de la résurrection. Cet Éthiopien est un chercheur de Dieu qui n'a pas encore rencontré le vrai Dieu. Tourmenté comme les disciples d'Emmaüs, il n'a personne à qui parler et il lit à haute voix le texte d'Ésaïe. Sa rencontre avec Philippe, provoquée par l'ange du Seigneur, lui ouvre les yeux. Il reçoit dans le baptême la vie nouvelle. Il reçoit la résurrection qui se produit chaque fois qu'un ange du Seigneur nous envoie vers quelqu'un afin que nous lui ouvrions les yeux. Le chemin de sa métamorphose, elle nécessite que nous soyons à ses côtés. Philippe écoute donc le fonctionnaire lire. Il l'écoute lire et lui raconte ses tourments. Il peut ensuite lui demander s'il comprend ce qu'il lit. Quant à nous, peut-être Philippe nous demande-t-il aussi, « Comprends-tu ce qui t'est arrivé aujourd'hui ou ces derniers temps ? Pourquoi as-tu justement choisi ce chemin ? Pourquoi nous rencontrons-nous maintenant ? Sais-tu vraiment ce qui te touche dans ce livre ? Ce qui te fascine dans cette musique ? La rencontre avec l'autre qui passe par notre questionnement aboutit à la résurrection. Cher ami à l'écoute, avant de terminer cette très courte étude, j'aimerais te demander vers qui l'ange de la résurrection veut-il donc t'envoyer toi ? Qui dois-tu accompagné sur son chemin ? N'y a-t-il personne autour de toi que tu devrais peut-être écouter te raconter sa vie et ses rêves te parler, par exemple, du livre qu'il lit en ce moment, il est important de poser la bonne question. Quelle question aimerais-tu poser à celui qui vit et qui chemine auprès de toi? Quelle question serait pour lui la clé du mystère de sa vie? Quelle question pourrait le conduire à faire l'expérience de la résurrection? Chers amis, nous allons maintenant terminer par la prière. Je voudrais tout d'abord vous dire une strophe d'un très ancien cantique. Ensuite, nous prierons ensemble et j'essayerai de vous mettre quelques mélodies d'un lointain passé. Ce sera un chanteur d'autrefois qui s'appelait Jim Reeves. Jim Reeves. Sur toi, Sauveur qui se fonde, peut au péché résister. L'effort du monde pour te tenter est comme une onde contre un rocher. Ô qui ne pourrait pas d'un vrai zèle suivre Jésus, l'âme qui n'aime pas ce qu'on appelle gloire ici-bas. Prions. Ô notre Dieu, toi qui n'es pas un Dieu de loin, mais un Dieu de près, nous te rendons grâce de ce que tu nous permets à toute heure de nous approcher de toi et de ce que tu as et ce que tu es toujours disposé à t'approcher de nous. Donne-nous dans ce moment de te voir face à face, de parler avec toi comme un homme parle avec son intime ami, de sentir que si nous avons cru à ton amour, à ta grâce, à ton salut, nous pouvons, revêtus de la justice de notre Sauveur, nous présenter devant toi avec une entière confiance d'être exaucés. Quelle pensée que c'est le là, Seigneur, que la condamnation qui pesait sur nous, c'est Jésus qui l'a prise sur lui, et que désormais, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit Saint. Que cette sainte pensée puisse nous accompagner d'heure en heure pendant cette journée qui commence. Qu'elle sanctifie nos heures de travail et élève sans cesse notre esprit jusqu'à toi. Qu'elle nous fortifie à l'heure de la tentation et nous aide à triompher en notre Sauveur et comme lui, qu'elle sanctifie nos heures d'épreuve et d'angoisse et qu'elle nous fasse discerner toujours la main paternelle et puissante qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Ô, sois ainsi avec nous et qu'à la fin de ce jour, nous puissions nous retrouver devant toi enrichis de quelques grâces nouvelles, plus reconnaissants envers toi et plus heureux dans ton service. Oui, exauce-nous pour l'amour de notre Sauveur et Seigneur. Amen. Et maintenant, je vous mets, si c'est possible, quelques chants d'un lointain passé. En ce temps-là, il n'y avait pas de CD, évidemment.
Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, you'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, you'll have to go. Out where bright lights are glowing, you're drawn like a moth to a flame. You laugh while the wine's overflowing, while I sit and whisper your name. getting better. I talked with an old friend. He asked about you. I managed to tell him with just a tear or two. I'm getting better. I'm getting better. I know I'll never be the same. I was standing too close to the flame. But it doesn't so much to hear your name. I think I'll make it. I'm getting better. I'd stop by a while and see you just once more before I leave town. But his car's parked there in your driveway, and I see the curtain down. I won't bother to ring your doorbell. I'm not sure just how much I can bear. I might do something I'd be sorry for later. So I won't come in while he's there. Does he know my whole world is in there with him? That he's keen while he sits there in my chair. I'd like to tell you just how much I still love you, but I won't come in while he's there. No, I won't come in while he's there. Your world was so different from mine, don't you see? We just couldn't be close, though we tried. We both reached for heavens, but ours weren't the same. That's what happens when two worlds collide. Your world was made up of things sweet and good. My world could never fit in. Wish it could. Too high. cried. That's what happens when two worlds collide. Your world was made up of things sweet and good. My world could never fit in. Wish it could. Two hearts lie in shambles. Know how to cry. That's what happens when two worlds collide. Are you thinking that I wasn't meant for you? Could it be you believe that I've been untrue? Listen, sweetheart, this just cannot be, for you're the only good thing that's happened to me. We have our ups and downs, like all lovers do. But you know in your heart that I worship you. So don't ever think of setting me free, for you're the only good thing that's happened to me. We have our ups and downs, like all lovers do. But you know in your heart that I worship you. So don't ever think of setting me free, for you're the only good thing that's happened.